Radio Campus, édition du 17 octobre 2016. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette première édition de l'année 2016-2017 de Radio Campus. Je me présente Dominique Degriche, je serai votre animateur pour aujourd'hui, pour cette première, après une longue absence estivale et printanière, mais on est de retour en force cette année. Au menu aujourd'hui, on reçoit les représentants étudiants au conseil d'administration de l'UQAM, Nadia Lafrenière et Samuel Cossette. Ensuite, on fait notre traditionnelle revue de presse des événements de la dernière semaine et on finit le tout avec une critique de Samuel Lamoureux sur le Festival du Nouveau Cinéma. Eh bien, ça fait maintenant un an que les étudiants de l'UQAM ont élu Samuel Cossette et Nadia Lafrenière pour les représenter au conseil d'administration de l'université. Et donc, pour souligner ce premier anniversaire, si je peux dire, ils ont mis sur pied un rapport pour faire le point sur l'an 1 de leur implication au CA. Et donc, pour faire le point, on les reçoit en studio aujourd'hui. Donc, mesdames, messieurs, bonjour.
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 Donc, pour commencer, de façon générale, comment s'est déroulée cette première année de votre mandat?
Ben, je dirais que ce qui est peut-être ressorti un peu de notre première année de mandat, c'est le fait qu'on n'ait pas été officiellement nommé avant le mois d'août. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est l'UQAM, ben, les étudiants, les étudiantes élisent deux personnes pour les représenter. Ensuite, l'UQAM envoie les documents au ministère et on attend longtemps que le ministère nous nomme. Donc, faut dire que c'est quand même une année où on n'avait pas le droit de proposition, on n'avait pas le droit de vote. Par contre, on avait quand même le droit d'assister aux réunions, on pouvait prendre la parole. Donc, on avait pas mal le même pouvoir qu'on avait, qu'on a eu une fois nommé. Sinon, ben justement, on parle de un peu nos impressions, à quel point on est écouté, à quel point les étudiantes, les étudiants peuvent avoir leurs intérêts défendus dans une instance comme le conseil d'administration. Le pouvoir est pas énorme.
D'accord. Donc, un des dossiers dont vous faites état dans votre premier rapport, c'est le dossier assez chaud quand même des expulsions et du comité de discipline qui a été d'ailleurs critiqué à deux reprises, entre autres dans des lettres ouvertes par les professeurs de sciences juridiques de l'UQAM. Donc, en gros, pour nous donner un aperçu, quelles sont vos principales critiques envers ce processus-là et cette instance-là?
Il y en a plusieurs. Là, il y a les nôtres, mais il y a aussi beaucoup d'instances, d'associations étudiantes, de syndicats qui ont présenté des critiques envers ce processus-là. Les principales qui sont mises de l'avant, là, qui sont acceptées par pas mal tout le monde au sein de la communauté, sauf évidemment le conseil d'administration, c'est l'accès à la preuve des étudiants et des étudiantes qui sont convoqués devant ce comité-là, qui n'ont pas accès à l'ensemble de la preuve qui est montée contre eux et elles. Les délais de prescription, c'est-à-dire que les convocations devant le comité disciplinaire et la tenue du même comité, là, ça se fait en l'espace d'une semaine, donc pas de temps pour se préparer du tout. Également, le fait qu'il n'y ait pas de droit de représentation, le comité, il n'y a pas d'appel, il y a un comité de révision, mais qui peut seulement prendre lieu s'il y avait un élément de preuve qui n'était pas connu, ce qui est difficile à dire puisque la personne n'a pas accès à la preuve en entier. Donc, c'est un processus là, qui est extrêmement difficile et qui est mis en place pour que l'étudiant et l'étudiante aient très peu de chances de s'en sortir, en effet. Donc, c'est les principales critiques qui sont mises de l'avant, c'est celle-ci. Là. Il y en a plusieurs autres, mais il y a beaucoup d'argumentaires qui ont été mis à ce sujet. Là. On pourrait développer longtemps, en fait.
Oui, c'est sûr, c'est beaucoup de matériel. Donc, mais vous dites dans votre rapport donc vouloir travailler sur ce dossier conjointement avec les associations étudiantes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous des exemples de comment vous allez collaborer avec les associations, notamment pour essayer de changer les choses?
Ben, l'adoption de la politique, ça s'est fait en secret. Donc, c'est la nouvelle politique était confidentielle jusqu'au moment de son adoption par le conseil d'administration. Ce qui fait que les gens n'ont pas pu se mobiliser vraiment avant l'adoption de la politique. Suite à son adoption, les associations étudiantes se sont mobilisées, ont voulu proposer une version alternative de la politique. Et ce qui est arrivé, c'est que à l'instance où ce genre de choses est normalement discuté, c'est le comité de la vie étudiante, les services à la vie étudiante refusent en fait que ce soit inscrit à l'ordre du jour. Donc, les associations étudiantes peuvent juste pas amener le point dans aucune instance parce qu'ils se font bloquer systématiquement la parole sur ce sujet-là. Donc, nous, évidemment, on veut travailler à ce que cette parole-là puisse être prise, que ce soit par nous, que ce soit par le comité de la vie étudiante, donc les associations étudiantes qui y siègent, pour que la politique change puis avoir une politique qui va en plus qui respecte plus les volontés de la communauté.
D'accord. Nous, dans nos pages, que ce soit de cette année ou dans les années passées, on parle beaucoup de transparence, de centralisation de l'information à l'UQAM. C'est un peu un thème récurrent au Montréal Campus depuis les 36 dernières années. Mais vous, vous en faites un peu état aussi dans votre rapport. Nous vivons donc deux réalités différentes par rapport à l'information et l'accès à l'information. Donc comment, sur le CA, vous avez des difficultés justement avec la transparence? Comment est-ce que vous vivez ça?
On en a plusieurs. De notre rapport annuel, je dirais que un des principaux thèmes, sinon le principal thème, en tout cas un qui touche beaucoup de critiques qu'on amène, c'est effectivement celui de la transparence puis la transmission d'informations. C'est extrêmement difficile avoir l'information en entier. C'est extrêmement difficile d'avoir l'information à temps. Même sur la structure du CA, des fois on reçoit des documents qui sont extrêmement volumineux 3-4 jours à l'avance, donc c'est difficile de se préparer. Et surtout sur le conseil d'administration, régulièrement on n'a pas réponse à nos questions, des réponses incomplètes, des réponses qui sont floues. La question de la confidentialité des documents revient de l'avant souvent. Donc, on a critiqué à plusieurs reprises le fait que des documents soient confidentiels. Le meilleur exemple, sans doute, à jour, effectivement, celui de la politique disciplinaire, qui est une politique qui touche les 45 000 étudiants et étudiantes de la communauté, puis qui était confidentielle avant son adoption. Et ça, c'est des cas qui reviennent souvent, des sujets qu'on juge qui sont très importants, dont la communauté devrait saisir, et on est dans l'impossibilité d'amener ces sujets-là de l'avant, parce que donc la confidentialité, il y a beaucoup de rétention d'information. C'est extrêmement difficile. Là. Il y a beaucoup de travail à faire à ce sujet-là et on voit pas d'ouverture ni de bonne foi de l'administration là, à ce niveau.
Puis j'ajouterais même aussi que même quand nous, on a accès à l'information, c'est pas toujours possible de la divulguer. Donc, par exemple, c'est même si on a le droit de faire des rapports donc aux gens qu'on représente, c'est-à-dire tous les étudiants et toutes les étudiantes de l'UQAM, c'est quand même pas très bien perçu. Donc, on s'est beaucoup surveillé sur qu'est-ce qu'on écrit, ce qu'on dit, pour s'assurer que absolument il n'y ait aucune information qui filtre, même quand ça pourrait toucher la communauté.
D'accord. Dans votre rapport, il y a un petit passage qui m'a accroché. J'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Vous dites, au sujet du CA, c'est probablement l'instance la moins légitime de l'université. Minimalement, on peut dire que c'est celle qui agit de façon la plus hautaine et détachée de la communauté qui soit. Pourquoi tirez-vous cette conclusion? C'est quelque chose qui a un peu piqué ma curiosité. Là.
Donc, quand on dit que c'est l'instance qui est la moins légitime de l'université, est-ce qu'on fait référence, par exemple, à la commission des études, au comité de la vie étudiante, donc aux instances où les gens qui y siègent sont vraiment des gens qui sont issus de la communauté. Donc, c'est des profs, c'est des chargés de cours, des étudiants, des employés de soutien, des cadres, mais c'est tous des gens qui sont tout le temps à l'UQAM. Sur le conseil d'administration, si on additionne les membres de la direction puis les représentants extérieurs à l'UQAM, donc ceux qui viennent juste pour le conseil d'administration, il y a déjà la majorité là. Ce qui veut dire que, en somme, ben, c'est la communauté de l'UQAM a peu de pouvoir sur le conseil d'administration. Donc, déjà là, nous, on voit quand même une légitimité qui pourrait être plus grande si la composition était différente. Par contre, ça, c'est quelque chose qui change pas juste à l'UQAM. C'est le gouvernement qui a fixé la composition du conseil d'administration. Une autre chose aussi, quand je dis celle qui est la plus hautaine et la plus détachée, ben, souvent, les résolutions de la commission des études ou celles du comité de la vie étudiante ou des conseils académiques représentent vraiment la réalité des gens qui œuvrent dans, la réalité des personnes touchées par ça. Les décisions du conseil d'administration souvent sont prises de manière pour des raisons tout simplement administratives et sans penser aux gens qui vont vivre les conséquences de ce qui est adopté.
D'accord, et en terminant, vous faites un portrait de la dernière année, de votre première année de mandat. Pour l'année qui s'en vient, c'est quoi, disons, le top 3 des dossiers qui vont attirer votre attention? Ce dont vous allez travailler? On parlait des listes un peu avant d'entrer en onde, mais c'est juste pour donner une idée des trois plus grands enjeux, selon vous, qui vont attirer votre attention cette année.
Il y en a plusieurs. Évidemment, celui de la politique disciplinaire reste le premier. Il n'y a toujours pas réussi à avoir de modifications. Il y a encore les étudiants et les étudiantes qui ont fait face à des menaces d'expulsion pas plus tard que cet été. Oui. À propos du conseil d'administration, en tant que tel, la question de la transparence, la confidentialité, l'accès à l'information va être un dossier important. Et puis, un troisième, il y a beaucoup d'enjeux. Je ne sais pas si Nadia, tu en as un en tête. Là.
Oui, ben toutes les questions de finances. En fait,
évidemment.
On le dit un peu dans le bilan, là, le conseil d'administration n'a pas tant d'emprise non plus sur les questions financières, mais c'est quand même l'instance qui doit s'en saisir. Donc, c'est celle qui est responsable de gérer les budgets et tout ça. Il y a des coupures à l'UQAM. C'est pas une surprise, je pense, pour personne, mais il y a ça qui est, qui va rester un enjeu, je crois, dans la prochaine année, ouais, malheureusement.
Définitivement.
D'accord. Et si je me rappelle bien, le prochain conseil d'administration aura lieu le 25 octobre, c'est bien ça?
C'est le cas.
Exactement.
D'accord. Donc, on va suivre vos rapports et vos communications à ce moment-là. On va en faire état aussi dans Montréal Campus, si jamais des choses importantes sortent. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Merci.
Et on s'en va maintenant en musique avec la chanson Sky du groupe Nomad.
Yeah.
Et nous sommes de retour à Radio Campus après cette chanson intitulée Sky du groupe Nomad. Donc, pour notre revue de presse de cette semaine, on reçoit le chef de la pupitre, du pupitre Société, Jean Balthazar. Mais avant de commencer à parler des articles publiés sur notre site web la semaine dernière, on tient à vous mentionner que la première édition papier de cette année du Montréal Campus est disponible en ligne en format PDF, puisque, bon, dans les présentoirs de l'UQAM, il en reste très peu. Pour ceux qui ne le savaient pas, on a refait un peu une petite cure de rajeunissement, une cure de beauté à notre bon vieux campus. On utilise une toute nouvelle maquette, designée entre autres par un étudiant en graphisme, dossier sur les déplacements étudiants du côté du pupitre Société. En culture, on parle du rap québécois et en UQAM, on vous offre en une un article sur l'aide psychologique. Mais bon, Jean, de retour aux articles parus la semaine dernière, on vient tout juste d'entendre la chanson du groupe Nomad. On est d'ailleurs intéressé à leur parcours. Tu es venu nous en parler un peu parce qu'il y a un texte qui est paru là-dessus.
Oui, exactement. Là, donc, en fait, Nomad, c'est un groupe qui regroupe là, justement 6 musiciens jazz qui proviennent de la Colombie-Britannique et des États-Unis. Par contre, il faut dire qu'ils se sont rencontrés à Montréal en 2012 alors qu'ils étudiaient en performance jazz à l'Université McGill. Et lors du Off Jazz là, qui s'est terminé la semaine dernière, Nomad a assuré le spectacle de fermeture. Ils ont performé leur pièce instrumentale là, tout en douceur dans un intimiste café-spectacle situé sur l'avenue Parc.
Et donc, tout comme tu l'as précédemment mentionné, Nomad est composé de 6 membres quand même. La pluralité des membres, est-ce que c'est un problème au niveau du groupe pour notamment la composition?
Ben effectivement, là, selon Ted Crosby, le clarinettiste. Oui, hein, c'est pas évident ce mot-là.
Le joueur de clarinette, hein. Finalement.
Oui, exactement. Pour la formation, ben, selon lui, là, le processus de création à 12 est parfois complexe. Là, on peut comprendre ça. D'autant plus qu'une part importante de la composition musicale est improvisée pendant les représentations. Le musicien raconte que c'est souvent les émotions qui permettent aux membres du groupe de suivre un fil directeur.
Et donc, après Love Jazz, quels sont les projets du groupe?
Ben, le groupe est encore aujourd'hui indépendant. Là, il souhaiterait d'ici les prochaines années signer un contrat avec une maison de disques. Le joueur de clarinette, on va continuer comme ça, a cependant ajouté qu'à 6, là, c'est parfois difficile de penser à l'avenir et de prendre des décisions communes.
Et donc, pour passer à la section société, on a tenté de faire un lien boiteux entre l'ambition du groupe Nomad et l'ambition des femmes. C'est le prochain sujet qu'on va aborder, donc l'ambition des femmes, mais on n'a pas réussi. Donc, on passe tout de suite au texte de notre collaboratrice Laurence Vachon, qui s'est intéressée la semaine dernière aux initiatives offertes aux femmes pour qu'elles aient au bout de leurs ambitions, parce que donc elles sont très ambitieuses, mais n'ont pas toujours les moyens d'atteindre leurs ambitions. Et donc, Jean, qu'est-ce qu'il y en est?
Oui, ben en effet, là, donc selon le sondage, l'effet A léger là, qui porte sur l'ambition, on remarque qu'autant du côté des femmes que du côté des hommes, environ 8 personnes sur 10 interrogées déclare avoir de l'ambition professionnelle. Donc, on remarque que c'est très similaire, c'est très semblable. Mais après coup, là, si on jette justement un coup d'œil sur le marché du travail, on constate que parmi les 500 plus grandes entreprises au Canada, il y a environ 20% des postes de haute direction et 35% des postes de gestionnaire qui sont occupés par des femmes. Puis là, d'ailleurs, les femmes auraient beaucoup plus de difficultés à passer du milieu scolaire au milieu professionnel que les hommes, selon une étude de la Bain & Company publiée dans le Harvard Business Review.
Et Jean, ce sont des données qui reviennent depuis quelques années. Mais concrètement, est-ce que ce soit à l'UQAM ou à l'extérieur, on propose des initiatives aux femmes qui sont adressées à elles pour essayer de propulser leurs ambitions, finalement?
Ouais, c'était le but du texte, d'ailleurs, là, de se pencher sur ça, sur le cursus universitaire, à savoir si l'ambition, ben justement, le cursus universitaire peut permettre aux femmes d'atteindre leurs rêves, d'être à la hauteur de leurs ambitions. Donc, il y a des ressources qui sont offertes par les services à la vie étudiante. Par contre, ces services ne s'adressent pas spécifiquement au parcours ou aux carrières des femmes. Même chose là, pour les professionnels cherchant à améliorer leurs compétences. Là, l'UQAM a mis sur pied la clinique carrière qui offre des services de gestion de carrière et d'orientation professionnelle à l'ensemble de la population, là, comme l'explique le directeur de la clinique, Louis Cournoyer, dans l'article. Ce service, là, un peu comme ceux offerts par les services à la vie étudiante, ben en fait, n'est pas dirigé exclusivement pour les femmes, mais offre un peu à tout le monde des rencontres, des activités. Ce qui est quand même surprenant, là, c'est que ces services sont beaucoup utilisés par les femmes. Selon M. Cournoyer, plus de 70% de la clientèle se compose de femmes qui possèdent soit différents diplômes ou qui occupent des postes de professionnels ou de cadres.
Et donc, en terminant, en conclusion, en UQAM, un de nos collaborateurs s'est penché sur le sondage quinquennal ICOP. Qu'est-ce qui en ressort?
Ben, en fait, l'enquête ICOP, là, qui veut dire indicateur des conditions de poursuite des études, est en cours dans tout le réseau des universités du Québec. Dans le fond, on s'interroge un peu... on interroge les nouveaux étudiants de tous les cycles sur une panoplie de choses comme la situation économique ou la santé. Et c'est le taux de participation qui fait beaucoup défaut. Là, on le remarque, en fait, l'agente de recherche pour le service de planification académique et de recherche institutionnelle, Laurence Pilon-Marien, le fait remarquer. En 2011, le taux de réponse était de 30% seulement dans tout le réseau. Dans le cas de l'UQAM, le taux de participation était seulement de 20%. Donc, Sylvain Bonin, là, agente de recherche pour la direction de la recherche institutionnelle pour l'Université du Québec, souligne que cette année, là, 13 500 étudiants de l'UQAM ont été sollicités pour participer au sondage.
Et donc, bien hâte de voir ce que ça va donner, puisque bon, l'UQAM et toutes les universités du Québec utilisent un peu ces données-là pour adapter leurs services. Donc, merci beaucoup, Jean.
Ça fait plaisir.
Et pour conclure l'émission, on s'en va avec notre adjointe de la section culture, Laurence Godchild, qui s'entretient avec Samuel Lamoureux au sujet du Festival du Nouveau Cinéma.
Oui, bonjour Samuel, ça va bien?
Ben oui, très bien.
Oui. Alors, la 45e édition du Festival du Nouveau Cinéma s'est terminée hier. Et pendant ces 10 jours, tu as assisté à plusieurs représentations. Toi qui as plongé la tête première dans les festivités cinématographiques, crois-tu que la FNC a réussi son défi cette année et a tiré un public alors qu'il semble en déroute depuis quelques années?
En fait, je pense que... Pour rectifier la fin de ta question, ce n'est pas ce festival-là qui est en déroute, mais plus le Festival des films du monde,
ouais, effectivement.
Début septembre. Donc, on sait que le Festival des films du monde est quasiment mort début septembre. Des employés pas payés, des festivaliers, des réalisateurs qui étaient fâchés de leurs films qui n'étaient pas projetés. Mais je pense que le Festival du Nouveau Cinéma, qui était un festival plus mineur au départ, s'est vraiment affranchi comme un festival qui est majeur puis qui peut remplacer le Festival des films du monde. En plus qu'il a une section film international, donc film du monde, voilà. Mm-hmm. Donc je pense que ça a été un grand succès. Et dans la soirée d'ouverture où j'étais, où on a projeté le film Un ours et deux amants, il y a vraiment eu beaucoup de flèches à l'égard du Festival des films du monde et à l'égard des médias aussi pour dire que le festival existe et qu'il est un festival d'envergure internationale. Il y a eu aussi beaucoup de flèches lancées à l'égard que peut-être qu'à Montréal, il y aurait de la place pour un nouveau cinéma indépendant pour remplacer le cinéma excentrique qui a été fermé. Beaucoup de flèches à l'égard que, manifestement, il y a des gens qui veulent voir des films d'auteur et que ça prendrait un cinéma pour eux.
Mm-hmm. Et comme tu l'as mentionné, le Festival du Nouveau Cinéma est reconnu notamment pour sa vocation internationale. Mais quelle place a-t-il donné cette année aux films québécois?
Beaucoup, comme d'habitude, bons et moins bons, faut-il le souligner, mais dans les bons, celui que j'ai énuméré auparavant, Un ours et deux amants de Kim Nguyen, je pense que c'est peut-être le film québécois de l'année, même si c'est pas uniquement québécois, c'est quasiment une triproduction Québec, Ontario et Nunavut. Donc, fait particulier, le film d'ouverture et le film de fermeture ont été filmés au Nunavut. Je pense que ça, c'est très particulier. Donc, c'est ça raconte l'histoire, ça le dit dans le titre, de deux amants qui se font une espèce de pèlerinage en motoneige, un peu de réalisme magique, la même chose que le réalisateur nous avait habitué avec Rebelle, avec Le Marais, avec ses autres films. Vraiment un classique qu'on a assisté. Sinon, les autres films québécois, on a eu... celui-là était beaucoup attendu et avec une brique et un fanal, comme je disais dans les pages du campus, ceux qui font les révolutions, blablabla, de Mathieu Denis et Simon Lavoie a été projeté samedi. Et comme j'ai écrit, ce film-là va, je pense, décevoir autant les acteurs que les détracteurs du sujet qui est le printemps 2012, parce que les acteurs vont voir que c'est parfois une parodie de ce qu'ils font, notamment nous ici. Je pense qu'on a tous déjà été dans une assemblée générale ici autour de la table et on sait que ça a jamais reviré en bagarre. Donc, mais dans le film, ça vire en bagarre, l'assemblée générale étudiante, pour dire que c'est un peu comme l'anarchie. Puis en tout cas, Ça, j'ai vraiment pas été convaincu, mais c'est quand même beau côté artistique. Ça prend des codes du théâtre, de la poésie et de la représentation. Donc voilà, c'est ça.
Et puis, il faut pas oublier toute la sphère compétitive du FNC. Alors, qui a gagné la Louve d'or cette année?
C'est Tony Erdmann de Maren Ad, une cinéaste allemande. Donc, c'est un film qui était très attendu parce qu'à Cannes, les gens avaient trippé, ça a l'air. Donc, moi, j'ai pas été le voir parce que, de toute façon, je savais que ça allait être bon. Tellement de gens avaient dit que ça allait être bon. Mais bon, voilà, c'est ce film-là qui a gagné.
D'accord. Puis, dans une autre perspective, une réalisatrice avait signé, il y a quelque temps déjà, une lettre ouverte dans les médias qui mettait de l'avant que le nombre de réalisatrices était trop peu nombreuses au Festival du Nouveau Cinéma ces dernières années. Qu'en est-il, Samuel, de cette controverse?
Bien, c'est ça. C'est qu'ironiquement, le film qui a gagné la Louve d'or, c'est réalisé par une femme. Mm-hmm. Mais il y a eu quand même une controverse comme quoi que les femmes n'étaient pas assez représentées au festival. Seulement 25% des films étaient réalisés par une femme. C'est Priscilla Guy, accompagnée d'une lettre signée par 100 personnes qui a dénoncé ça. Nicolas Girard Deltruc, le responsable du festival, s'est défendu en disant que 75% de son équipe, c'était des femmes, donc c'était pas si pire. Mais en même temps, ça, c'est une drôle de défense. C'est comme si on disait un reportage est écrit par un homme, mais les recherchistes sont des femmes. C'est pas un moyen, je trouve, de... Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Dom. C'est pas un moyen, je trouve, de défendre...
C'est effectivement une comparaison qui est juste que tu soulignes. Donc, une défense qui frôle le sophisme.
C'est
peu,
ça, c'est ça. Ça frôle vraiment le sophisme. Donc, il a dit qu'il travaillerait et il a lancé une flèche aux producteurs. C'est peut-être plus la faute des producteurs s'il n'y a pas assez de films féminins. Donc, voilà, mm-hmm. On se lance des flèches à ce niveau-là.
Puis, avant d'arriver en onde, tu me parlais de toute la partie de 360 degrés qu'il y avait cette année au Festival du Nouveau Cinéma, notamment avec la réalité virtuelle. Est-ce que tu as apprécié cette expérience-là?
Oui, moi, j'ai été à la SAT. Il y avait tout un volet entrée gratuite. Il y avait beaucoup de personnes qui ont pu y aller essayer des films en 360 degrés, donc il suffit de se mettre un casque de réalité virtuelle et mm-hmm. d'entrer dans des univers. C'était vraiment une grande expérience. J'ai essayé Pattern de Pierre Friquet, qui l'explique comme étant une expérience surnaturelle d'horreur psychédélique.
D'accord.
Il l'explique comme étant ça. Et c'est que tu mets le casque et tu arrives dans une pièce comme une maison antique, une pièce sombre, et là tu prends un objet qui est comme une espèce de flashlight et tu vas observer la pièce, puis là tu trouves des cadres poussiéreux, puis tu vois comme une espèce de quasiment un corps sur un divan, donc ça fait vraiment peur en effet. Puis c'est bizarre parce que 2 minutes avant de mettre le casque, c'est une pièce vide, mm-hmm. puis là, on se retrouve vraiment dans un univers fantastique. Il y a aussi le vertige des autres. Une autre production québécoise qui, quand on met le casque, ça nous projette, on est comme sur un... On est dans le vide, on est sur un cube dans le vide et on voit comme il y a de la perspective, on voit d'autres cubes plus bas, donc ça donne vraiment le vertige comme œuvre. On a peur, on dit qu'il faut pas tomber, voilà, on marche sur les côtés. Mm-hmm. Et encore, il y en a eu un autre qui m'a marqué qui était B-Boy, B-Girl. Donc ça, il fallait s'allonger sur un divan, il fallait choisir l'option femme ou homme. Moi, j'ai pris femme pour... pour une autre expérience. Et vraiment, c'est comme si tu étais sur la plage, allongé dans un corps de femme ou d'homme. Donc, mm-hmm. moi, j'étais dans un corps de femme allongé sur la plage. Et il y avait même le volet sans senteur. Donc, il y avait une espèce de... Il y avait dans le nez, ça injectait comme des sensations de plage, mm-hmm. là, et de bonheur. Et là, t'entendais les oiseaux. Puis, en tout cas, puis il y avait même de la chaleur. Il y a un truc qui faisait de la
c'est
chaleur.
C'est vraiment multisensoriel,
comme si
complètement.
Les cinq sens. Ouais.
Oh, intéressant, super. Ah.
Écoutez, sur cette note sensorielle et immersive sans précédent, peut-être qu'un jour Radio Campus sera en réalité virtuelle.
J'espère,
qui sait?
J'espère
bien. Qui sait? Donc, sur ce, mesdames et messieurs, c'était notre première émission de l'année Radio Campus. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve par contre dans 2 semaines puisque c'est la fameuse semaine de relâche. La semaine prochaine, on vous revient avec encore plus de contenu, des entrevues, des reportages, qui sait? Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve dans 2 semaines.